Kigan.
Hardigan présente Je serai ton ombre, de Lisa Jewell. Traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem. Lu par Manon Jomain. Nuit de la Saint-Valentin, 23h59. Je baisse la tête et rabats ma capuche devant mes yeux. Devant moi, la fille aux cheveux roux accélère. Elle sent que je la suis. Je presse le pas. Je veux lui parler, rien de plus, mais je vois bien à sa démarche qu'elle a peur. Je ralentis en entendant quelqu'un arriver derrière nous. Je me retourne et j'aperçois une silhouette qui approche. Pas besoin de voir son visage. Je sais que c'est lui. Lui. Mon cœur s'emballe, mon sang ne fait qu'un tour. Je sens palpiter la plaie sur ma jambe. Je me tapis dans l'ombre et j'attends que l'homme me dépasse. Il tourne au coin de la rue et son attitude change subitement lorsqu'il remarque la femme devant lui. Je reconnais sa silhouette, son allure, et je sais pertinemment ce qu'il va faire. Alors, je sors de l'ombre et je m'élance vers lui, vers le danger. Vers la vengeance. Mon destin m'appartient. Avant. Chapitre 1. Saphir. Je m'appelle Saphir Maddox. J'ai 17 ans. J'ai des origines galloises du côté de mon père et du côté de ma mère. J'ai des racines trinidadiennes, malaisiennes et même un peu françaises. Les gens essaient parfois de deviner d'où je viens, mais ils se plantent tout le temps. Quand on me pose la question, je réponds que je viens des quatre coins du monde, sans entrer dans les détails. Personne n'a besoin de savoir qui a couché avec qui. Je vais au lycée à Chalk Farm. Je suis en première option maths, physique et bio, et je suis plutôt du genre intello. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire après. Tout le monde veut que j'aille à l'université, mais parfois je me dis que j'ai envie de commencer à travailler tout de suite. Peut-être dans un zoo ou dans un salon de toilettage, pourquoi pas. J'habite à Alfred Road, dans un T3 au 8e étage d'une tour, en face d'un lycée. Ce n'est pas mon bahut, j'étais déjà scolarisée ailleurs quand il a été inauguré. Ma grand-mère est morte juste avant ma naissance, ma mère juste après, mon père ne veut pas entendre parler de moi, et mon grand-père nous a quittés il y a quelques mois. Je vis seule avec mon oncle. Il n'a que 10 ans de plus que moi et il s'appelle Aaron. Il s'occupe de moi comme si j'étais sa fille. En semaine, il bosse dans un PMU de 9h à 17h, et le week-end, il est jardinier. C'est le meilleur être humain de la planète. J'ai un autre oncle, Lee, qui réside dans l'Essex avec sa femme et leurs deux filles. C'est super qu'il y ait enfin d'autres enfants dans la famille, mais mes cousines sont trop jeunes pour qu'on traîne ensemble. J'ai grandi auprès de deux hommes, et de ce fait, je ne me débrouille pas très bien avec mes semblables. Ou disons que je suis plus à l'aise avec les mecs. Quand j'étais petite, je n'avais que des copains et on me répétait que j'étais un garçon manqué. Mais je crois que ça n'a jamais été le cas. Puis j'ai commencé à changer et je suis devenue jolie. C'est ce qu'ils prétendent, parce que je pense. Les garçons ne voulaient plus être mes copains, ils se comportaient bizarrement avec moi. Et j'ai compris que j'avais intérêt à me faire quelques copines. Ça m'a plutôt réussi. On n'est pas très proches et je ne les verrai sans doute plus après le lycée, mais on s'entend bien. On se connaît toutes depuis longtemps maintenant, c'est cool. Voilà, pour que vous puissiez vous faire une première idée. Je ne suis pas quelqu'un de super heureux. Je n'explose pas de rire et je ne serre pas les gens dans mes bras comme les autres filles. J'ai des passe-temps un peu chiants. J'aime lire et cuisiner. Je ne suis pas une fêtarde dans l'âme. Je bois un peu de rhum avec mon oncle le vendredi soir devant la télé, mais je ne fume pas d'herbe, je ne prends pas de drogue ni rien de ce genre. La vie des jolies filles est souvent d'un ennui mortel. Personne ne le remarque. Quand vous êtes jolie, les gens ont tendance à imaginer que vous avez une vie exceptionnelle. Ils sont vraiment aveugles parfois. Franchement débiles même. J'ai une histoire triste et des idées noires. Parfois, je fais des trucs flippants et je me fais peur. Toutes les nuits, je me débats. Avant de me coucher, je borde ma couette de façon très serrée sous le matelas. Le lit est tellement tendu qu'on pourrait faire rebondir une pièce dessus. Mais le lendemain matin, tous les coins sont défaits et je suis entortillée dans mes draps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens jamais de mes rêves et je suis toujours épuisée au réveil. Quand j'avais 10 ans, une chose horrible m'est arrivée. Atroce. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'étais encore petite et aucune gamine ne devrait vivre ce genre de truc. Ça m'a changée. Je me suis mise à me faire du mal. Sur mes chevilles, sous mes chaussettes pour que personne ne puisse le voir. C'était de l'automutilation, je le savais. Tout le monde sait ce que c'est de nos jours. Mais je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Tout ce que je sais, c'est que ça m'empêchait de trop penser à certaines choses. Quand j'avais 12 ans, mon oncle Aaron a remarqué les coupures et les cicatrices. Il a compris et m'a emmené chez le docteur, qui nous a conseillé d'aller au centre Portman pour consulter un psychologue. C'est comme ça que j'ai rencontré Rohan Forze.